Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Dans notre parcours de ce jour, nous avons la chance et l'avantage de recevoir Alain Ponce. Alain Ponce, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et vous avez été élu membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, donc de l'Institut, le 21 juin 2004, élu par 23 voix sur 25. Et l'idée d'aujourd'hui est de faire un peu votre portrait, de voir à la fois tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et quelles sont les lignes directrices pour cela. Et je voudrais commencer donc ce portrait par quelques propos d'Alain Besançon, un de vos vieux et chers amis, qui, le 8 janvier 2004, devant la Société des gens de lettres, disait de vous beaucoup de choses, et en particulier ceci. « Si je veux prendre une vue globale de la relation qui s'est nouée entre nous, je dirais qu'au regard de mes écarts de pensée, de mes enthousiasmes non justifiés, de mes freudaines intellectuelles, de mes freudaines en particulier, tu as toujours représenté l'élément raisonnable, sobre devant mes ébriétés, judicieux quand il s'agissait de rendre un jugement de vérité infaillible, si c'était un jugement de goût. » Et le même Alain Besançon de conclure son propos après avoir, ce qu'on va faire juste après, présenté l'ensemble de votre œuvre. « Tu es, mon cher Alain, d'une promotion normalienne de philosophe qui produisit des esprits mirobolants, des faiseurs d'opinions, des bêtes médiatiques. Cela ne correspondait pas à tes goûts ni à tes ambitions. Tu es du pays de Chardonne et de Jean Monnet. Dans la France d'après-guerre, il y eut place pour les fracas du grand style gaullien et pour les réalisations discrètes, mesurées, cependant originales, efficaces et durables de Jean Monnet. Acceptes-tu que je te place à côté de lui dans l'Europe charentaise des bons esprits ?» Alors, l'Europe charentaise des bons esprits, donc, semble-t-il, c'est vous. Vous faites partie de ce côté-là de, à la fois, la philosophie, à la fois, la promotion normalienne et à la fois, donc, la France.
En vous écoutant, d'un certain côté, j'admirais la manière dont vous avez réussi à faire une synthèse, je crois, extrêmement juste de ce que j'ai pu faire donc, dans ma vie.
Et pour vous présenter, donc, on peut le faire, me semble-t-il, de trois manières différentes. Première manière, d'une façon universitaire, vous êtes né donc en 1929, donc bon anniversaire pour cette année. Vous êtes normalien de la promotion 1952, et donc vous avez à ce moment-là côtoyé Jacques Derrida, Michel Serres, Pierre Asner. Après l'agrégation, vous partez donc à l'université de Naples et vous avez été chargé de cours à la Sorbonne et surtout, pendant 30 ans, vous avez été chargé d'enseignement donc à Paris 10, Nanterre. Et il faut donc que je vous rende hommage parce qu'il se trouve que j'ai été donc votre élève dans les années 80 à Nanterre et que j'ai apprécié, comme d'autres, dans des temps qui étaient un peu agités, où le marxisme se portait haut et de manière flamboyante, où certains auteurs post-68ards étaient là pour dire ce qu'il fallait faire, que donc j'ai apprécié, comme d'autres, l'approche qui était la vôtre, le retour aux auteurs, le retour aux fondamentaux, le retour au texte, le retour à une forme de profondeur de la philosophie, prise dans toute son épaisseur, en partant des Grecs et en partant des Romains. Et je signale en particulier que vous avez été un des premiers en France à vous intéresser à Hannah Arendt. Vous avez dirigé sans doute une des premières thèses sur Hannah Arendt que vous avez dirigée avec donc André Hennegren, donc, qui a publié en 1984 La pensée politique de Hannah Arendt et qui est la reprise de ce que vous avez fait avec lui. Donc vous avez été un professeur de philosophie politique que l'on pourrait qualifier de modeste, au bon sens du terme, c'est-à-dire au service des auteurs, un philosophe désenfiévré dans une époque qui était pleine de fièvre et qui savait donc revenir à toutes les vertus de la philosophie, c'est-à-dire la raison raisonnable, la prudence du jugement et les concepts modestes.
Oui, quand on arrive à un certain moment de son existence et qu'on doit jeter un coup d'œil rétrospectif dans ma vie, dans mon métier, on s'aperçoit qu'il y a une part de hasard, bien entendu, et une part de nécessité, c'est bien connu. Et précisément, en ce qui me concerne, il y a quand même quelques éléments, je crois, tout à fait fixes, fermes, qui ont quand même déterminé ce que j'ai pu faire, et puis d'autre part, en effet, cette partie, toujours un peu imprévisible, mais sans quoi l'existence serait bien ennuyeuse, qui fait justement, qui tient aux rencontres, aux amitiés.
Alors, deuxième point de vue, du point de vue de vos travaux. Vous êtes spécialiste avant tout de la philosophie italienne ou d'un certain nombre d'auteurs de philosophie italienne. Et nous allons en parler par la suite. En particulier, Jean-Baptiste Vico, donc auteur de la Science Nouvelle. Et vous avez publié donc beaucoup de traductions et d'introductions à son œuvre. En 1981, vous avez fait paraître donc la traduction et une introduction à la vie de Vico par lui-même. En 2001, vous avez fait paraître une traduction donc de la Science Nouvelle, qui est son œuvre majeure. En 1987, vous avez fait paraître le livre du courtisan de Balthazar Castiglione, livre qui est paru en 1528, donc vous l'avez traduit et vous l'avez introduit. J'ajoute à ça autre auteur de philosophie italienne, un livre qui s'appelle donc Galatée, d'un auteur Della Chiesa en 1988, Les Ricordi de Guichardin. Voilà. Donc tout ça vous donne, disons, votre base philosophique, votre pays natal philosophique, si on veut, qui est donc cette Italie ancienne de tous ces auteurs-là. Et le grand public a fait votre connaissance avec un livre qui s'inspire ou qui s'appuie sur cela, donc un livre sur Lady Hamilton que vous avez écrit avec Anne Ponce, votre épouse, en 2002, sur donc Lady Hamilton, parce que Lady Hamilton a passé une partie de sa vie à Naples, donc que vous connaissez particulièrement. Alors j'ajoute toujours, parce qu'on va se rendre compte qu'effectivement, vous avez à la fois une œuvre des intérêts et des amitiés larges, si ce n'est éclaté. Je n'oublie pas non plus donc, le travail que vous avez pu faire sur le 18e français. Donc, vous avez fait des préfaces pour le livre de Condorcet, esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain en GF en 98. Une introduction donc, au dictionnaire de philosophie de Voltaire. Une introduction en deux tomes d'une anthologie d'un certain nombre d'articles de l'encyclopédie en 63, repris en 98. Voilà, donc ça c'est le deuxième aspect, le deuxième continent de votre œuvre, qui est ce que vous avez fait et publié. Et puis il y a un troisième continent, et puis on s'en arrêtera là pour que je puisse vous passer la parole, mais une vaste introduction permet de mieux comprendre qui vous êtes pour nos auditeurs. Donc du point de vue de vos amitiés, je crois que l'amitié est une chose qui est très importante pour vous et qui est sans doute au cœur de votre cheminement, à la fois personnel et à la fois intellectuel. Donc, il se trouve que, par votre père, vous avez connu très tôt Maurice de Candillac, que vous avez été, par la suite, après, jeune homme et homme, vous avez été un grand ami de Kostas Papagiannou, qui est un philosophe grec spécialiste de Marx et qui était plutôt, disons, du côté, même si on peut faire des distinctions, du côté de Claude Lefort, de Castoriadis, c'est-à-dire tous ceux qui se sont opposés à une lecture furieuse, disons, de Marx et du marxisme. Et je renvoie donc nos auditeurs, pour ceux qui veulent connaître Kostas Papagiannou, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Donc je renvoie les auditeurs à un livre qui s'appelle « De Marx et du marxisme » qui a été publié en 1983 avec une préface de Raymond Aron. Raymond Aron, venons-y justement, parce que vous considérez Raymond Aron comme l'un de vos maîtres. Vous avez connu Raymond Aron à partir de la fin des années 50. Et vous êtes proche depuis ce moment-là, à la fois de lui, à la fois de ses amis et à la fois donc de Commentaires, qui est la revue donc fondée entre autres avec Jean-Claude Casanova pour prolonger sa pensée ou pour être dans la mouvance de sa pensée. Alors je n'oublie pas non plus, et ce que j'ai dit au début le laisse penser, que vous avez un cercle d'amis proches, des gens qui sont, disons, dans l'amitié philosophique et dans l'amitié personnelle qui est la vôtre. Je cite en particulier Pierre Manent, Alain Besançon, on vient d'en parler, Jean Bachelet. Alors, si on veut rajouter encore à cela d'autres amis ou d'autres personnes que vous avez connues et qui ont eu un rôle important qui laisse à penser que vous avez un sens de l'amitié large, je dois citer donc Alfred Fabrelus, que vous avez bien connu, et vous avez effectivement, au moment où il est mort, peut-être essayer de régler un certain nombre de choses pour son œuvre posthume. Tony Negri, que vous avez connu à Naples et que vous avez revu à Paris. Pierre Goldman, par un peu étrange, mais enfin Pierre Goldman. Vous avez été son professeur de philosophie quand lui a débuté ses études de philosophie en prison. Voilà, donc j'en ai fini, si vous voulez, sur cette présentation un peu large, mais ça permet de remettre un peu en perspective qui vous êtes pour votre portrait. Et comme je vous sais suffisamment modeste, je me suis livré moi-même à ce rassemblement d'éléments différents. Donc, la première question que je voudrais vous poser est la suivante. Donc, il y a des éléments un peu hétéroclites. Qu'est-ce que vous diriez de vous-même aujourd'hui sur cette œuvre, cette vie qui est la vôtre, ces amitiés nombreuses et variées, sur ces préfaces larges? Quel est, disons, le point nodal, enfin, l'élément central, enfin, vous voyez, le projet qui est le vôtre et que vous pouvez peut-être maintenant mieux voir dans le rétroviseur que vous n'en aviez conscience sans doute quand vous avez commencé?
J'étais heureux justement que vous fassiez allusion à cette notion d'amitié qui indéniablement a joué un rôle important chez moi, dans la mesure où je dirais volontiers que s'il y a, si vous voulez, un élément assez fixe dans ma vie, dans ma carrière, dans ma pensée, dans mes écrits, justement, c'est le fait que j'ai toujours été déterminé par des amitiés, par des sympathies, aussi bien en ce qui concerne les amitiés intellectuelles avec les gens de ma génération, avec ce qu'on peut appeler nos maîtres, avec celles des gens plus jeunes, justement, que j'ai pu connaître, comme mes étudiants, à vous-même. Donc, et d'autre part, donc, amitié aussi en ce qui concerne les morts, si j'ose dire, c'est-à-dire les auteurs, précisément parce que, au fond, j'ai essayé d'être un honnête professeur, j'enseignais la philosophie politique, à une époque d'ailleurs, il faut bien le dire, où c'est un genre qui était très peu pratiqué en France. Ça peut sembler étrange parce que maintenant, si vous voulez, dans les universités, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup de collègues enseignent la philosophie politique. Moi, quand je suis entré dans l'université à Nanterre en 1965, ben, il n'y avait nulle part de chaire de philosophie politique, n'est-ce pas? Pas à la Sorbonne ou ailleurs. Et ça, alors on pourrait évidemment gloser là-dessus, c'est extrêmement intéressant, dans la mesure où c'était quand même un phénomène assez spécifiquement français. Parce que si vous preniez l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, l'Italie, au contraire, c'était un genre qui avait des lettres de noblesse et une tradition très ancienne. Tandis qu'en France, on pourrait expliquer ça par le fait que, je vous dis, il est tout à fait caractéristique qu'à la Sorbonne, il n'y avait pas de certificat de philosophie, puisque le système des certificats de philosophie politique, il y avait un certificat de morale et sociologie. Et ça, c'est évidemment un peu l'influence durkheimienne. Et en réalité, si vous voulez, bon, la philosophie politique, proprement dite, n'était pas directement enseignée. Moi, mes goûts, mes lectures jusque-là, au contraire, m'avaient porté à m'intéresser à ça, et d'un point de vue, je dirais, plutôt historique que proprement théorique. On ne peut pas séparer les deux, mais je veux dire par là que ce que j'ai pratiqué relève peut-être davantage de ce que, surtout dans les pays anglo-saxons, on appelle l'histoire des idées. En France, l'histoire des idées est un peu méprisée. Il semblerait que justement, ça soit peut-être un genre un peu bâtard entre l'histoire proprement dite, etc. Or, pour moi, précisément, l'histoire des idées qui ne peut absolument pas être séparée d'une réflexion proprement philosophique sur la politique, c'est ce que j'ai essayé de pratiquer. Dans mon enseignement, bon, qui a, pour moi, si vous voulez, a été partie très importante de mon existence, à laquelle j'ai pris un grand plaisir et qui m'a donné de grande satisfaction, qui m'a amené justement d'ailleurs à étudier, à exposer de la manière la plus objective et la plus même sympathique possible des auteurs avec lesquels je n'étais pas forcément en amitié intellectuelle profonde, n'est-ce pas? Bon, et c'est ça quand même qui est intéressant dans le travail de l'enseignement. Il ne s'agit pas, comme peut-être on s'était mis à le faire un peu trop à ce moment-là, n'est-ce pas, d'imposer ses propres visions idéologiques, etc., à travers les auteurs dont on parlait. Bon, mais d'autre part, dans ce cadre assez classique auquel je tenais beaucoup, qui d'ailleurs me portait à insister tout particulièrement sur des auteurs qui, pour moi, enfin, ont été indépassables dès le début de l'histoire de la pensée. Je pense aux Grecs, je pense à Platon et Aristote, je pense au latin aussi, dans la mesure, pour moi, ça a été d'une pensée un peu trop méconnue, même en France, si vous voulez, la pensée latine ou romaine. J'ai d'autre part toujours un très grand plaisir à lire et à pratiquer et à traduire même le latin. Bon, autrement dit, si vous voulez, ça c'est déjà un point fort, n'est-ce pas ? Bon, qui fait qu'ensuite, lorsque j'avancerai, si vous voulez, dans mon étude des penseurs politiques dans le temps, j'aurai une sympathie particulière pour ceux qui se rattachent à ce vieux fond humaniste, comme on l'appelle. Et alors c'est là que justement on retrouve les auteurs auxquels je me suis particulièrement intéressé et que vous avez cités, donc ceux qui appartiennent à la Renaissance italienne. Encore une fois, il y a ceux sur lesquels j'ai écrit ou que j'ai traduit, ceux sur lesquels j'ai enseigné, je pense à Machiavel et à bien d'autres. Et précisément, ça c'est peut-être une caractéristique de ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire de ne pas m'en tenir de manière extrêmement stricte à des auteurs catalogués comme philosophes à proprement parler. C'est ainsi donc que j'ai présenté et traduit le livre du courtisan de Castiglione, un texte qui en principe relève plutôt de l'histoire littéraire, mais qui en fait a eu une influence absolument extraordinaire sur l'Europe entière pendant plusieurs siècles. Un livre qui parle des manières, justement, du comportement. Mais précisément, pour moi, ce livre, donc, je dis, ne relevait pas de la pure littérature, évidemment, dans une certaine mesure, puisque c'est sur le plan, si vous voulez, stylistique, etc. C'est un chef-d'œuvre. Mais pour moi, n'est-ce pas, pour comprendre la pensée, si vous voulez, d'abord de la Renaissance italienne et ensuite de l'influence que cette Renaissance italienne a eue sur l'Europe entière pendant au moins 2 siècles, c'est un texte tout à fait fondamental. Et donc, je le répète, qui est intéressant sur le plan littéraire, certes, mais historique, politique et philosophique. Et les autres auteurs que vous avez cités, Della Casa et bien entendu Guichardin, bon, tout ça, ça relève évidemment, si vous voulez, pour moi, d'une même famille. Et puis d'autre part, la seconde famille que vous avez évoquée, c'est le XVIIIe siècle français. Là encore, c'est une sorte d'instinct qui m'a poussé vers les auteurs de cette époque. Et c'est quand même un point, si vous voulez, sur lequel je crois qu'il faut insister, parce que ça pourrait expliquer aussi certains autres intérêts que j'ai pu avoir. Pour moi, les auteurs dont j'ai parlé, en tout cas, du XVIIIe siècle français, que j'ai édité ou présenté, ces auteurs, à mes yeux, ne relèvent pas d'une espèce de catégorie toute faite, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les Lumières, avec toutes les connotations, disons, politiques ou philosophiques, etc., préparation de la Révolution française, et tout ça. Pour moi, justement, c'est des auteurs extrêmement divers. Mes sympathies me poussaient davantage dans certaines directions, etc. Mais encore une fois, n'est-ce pas, justement, je n'ai pas voulu entrer dans une espèce de querelle idéologique, n'est-ce pas, en opposant, donc, je vous dis, le rationalisme des Lumières à d'autres tendances philosophiques, parce que pour moi, c'est une étiquette sans doute assez facile, les Lumières, mais en réalité, si on étudie d'assez près les différents auteurs, et pas simplement les auteurs français, mais anglais, allemands ou italiens de l'époque, on trouve une extrêmement grande variété, si vous voulez, de pensée. Donc ça, pour moi, était évidemment, si vous voulez, un point, un des axes, en quelque sorte, de ma pensée. Et puis alors, justement, encore une fois, enseignant la philosophie politique, quand même, je ne pouvais pas me cantonner uniquement dans des périodes historiques, anciennes, ou plus ou moins. Et d'autre part, j'ai été amené à m'intéresser aussi à des auteurs modernes, contemporains. Bon, vous avez cité Hannah Arendt, et à cet égard, enfin, je crois avoir été peut-être quand même un des premiers à m'intéresser à cette philosophe, précisément dans la mesure où, là aussi, je me sentais, si vous voulez, à l'aise dans cette manière de penser, ce qui ne m'empêchait pas, d'ailleurs, d'étudier aussi, ne serait-ce que par, je dirais, par devoir professionnel, à des auteurs, souvent, que je pense à Marx, par exemple. Si vous voulez, j'ai consacré d'assez nombreux cours à Marx, et précisément parce que tout de même, je pensais que c'était quelqu'un d'une grande importance. Et d'autre part, je ne voyais aucune raison de ne pas l'étudier de la façon dont je pouvais étudier un auteur de la Renaissance ou du XVIIIe, n'est-ce pas ? Bon. Et de ce point de vue-là, précisément, j'ai eu pas mal de plaisir. Et avoir, même parmi les auditeurs, justement, il ne s'agissait pas du tout dans mon esprit, si vous voulez, de démystifier, par exemple, Marx, mais d'essayer de le comprendre, de le situer, si vous voulez, dans son temps, comme un auteur important qu'il fallait connaître, qui a eu des postérités, justement, qu'ensuite, on pouvait discuter. Voilà, si vous voulez, un peu l'esprit dans lequel j'ai conçu à la fois mon enseignement et puis d'autre part mes travaux qui, effectivement, et alors évidemment, on en arrive à celui que vous avez cité et qui, pour moi, a occupé une grande partie, a été une espèce d'axe, si vous voulez, de ma pensée. Il s'agit du philosophe italien Giambattista Vico, que je me suis intéressé parce qu'il était très intéressant et qu'il était mal connu en France, alors qu'au contraire, il était de mieux en mieux étudié, non seulement en Italie, bien entendu, où il est considéré depuis longtemps comme le plus grand philosophe italien, mais dans des pays, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, et alors qu'en France, il était à peu près, disons, inconnu. Et pour moi, ça a été un auteur auquel j'ai consacré, disons, une très bonne partie, si vous voulez, de mes travaux, traductions, études diverses, parce que pour moi, si vous voulez, justement, j'ai toujours été attiré du côté à la fois de la philosophie politique et d'autre part de ce qu'on appelle, ou de ce qu'on appelait en tout cas, la philosophie de l'histoire, n'est-ce pas, donc considéré comme peut-être le fondateur. Alors qu'à mon avis, il est beaucoup plus, mais enfin, on ne va pas entrer dans une discussion à propos de cet auteur. Alors, ce qui m'a permis justement d'être en contact avec des philosophes, disons, du monde entier, qui avaient le même intérêt que moi pour cet auteur trop méconnu, surtout en France.
Je voudrais que nous observions une petite page musicale avant de reprendre. Donc, nous reprenons notre entretien avec Alain Ponce. Nous avons, dans une première partie, essayé de présenter un peu les différents aspects de votre œuvre, de votre parcours, de vos amitiés, de votre enseignement. Et je n'ai pas cité, mais je dois le faire maintenant, que dans le texte, effectivement, d'Alain Besançon, donc en 2003, il disait que vous aviez été, pendant les 30 ans qui ont été les vôtres à Nanterre, que vous avez été l'honneur de Nanterre dans une époque où effectivement certains parfois confondaient un tout petit peu leur enseignement avec leurs opinions ou avec les modes du temps. Je voudrais revenir sur un point qui est d'une certaine façon un peu le moment central, enfin originel de votre parcours. Et je vois là une forme de contre-pied ou de double contre-pied. Vous faites de la philosophie politique, vous nous dites, au moment où effectivement cette philosophie politique n'est pas enseignée, et au moment où, en dehors de l'université, la fièvre de la philosophie politique, du marxisme, pour ne pas le citer, est absolument partout. Et deuxième chose, vous nous avez indiqué effectivement que vous êtes référé, souvent vous avez exploré de différentes manières, le vieux fonds humaniste, ce qui vous a amené à... Voilà, le vieux fonds humaniste à une époque, 1950, 1960, 1970, où il était de bon ton d'imaginer que l'homme tel qu'on l'avait conçu depuis ces époques anciennes allait disparaître, qu'il était mort, que l'humanisme était mort, qu'on pouvait s'en passer. Donc vous voyez bien, il y a un double effet de contre-pied dans votre démarche, et je voudrais que vous puissiez mieux nous expliquer ce qu'il en est. Vous vous intéressez à la philosophie politique et à cette histoire des idées politiques telles qu'elles étaient pratiquées ailleurs, et je pense en particulier à Léo Strauss, hein, qui a beaucoup pratiqué cela, à une époque où, effectivement, pour calmer peut-être un peu le jeu, mais à une époque où cette philosophie politique, le marxisme imaginaire ou le marxisme réel, etc., était de mise, d'une part, et deuxièmement, en vous appuyant sur ce vieux fonds humaniste qui, lui-même, était remis en cause de mille et une manières.
Oui, dans une certaine mesure, vous savez, ce qui détermine les intérêts de quelqu'un, d'un philosophe, ne lui apparaît pas forcément d'une manière extrêmement claire. Et que rétrospectivement, en effet, on peut arriver, enfin moi-même j'arrive à donner à ma trajectoire intellectuelle une unité, une identité qu'elle n'a pas forcément d'ailleurs, en tout cas qui n'était pas forcément vécue de façon consciente par moi. On est toujours tributaire de son époque, n'est-ce pas ? Et lorsque, si vous voulez, je reviens un petit peu en arrière au moment où j'ai commencé à faire de la philosophie sérieusement, qu'est-ce qui dominait la pensée philosophique française ? Bon, il y avait, parmi les courants les plus récents, il y avait la phénoménologie, il y avait le marxisme et il y avait, disons, la psychanalyse. Et lorsque je réfléchis à la trajectoire de ceux qui étaient mes camarades, qui sont devenus mes collègues. Effectivement, c'est un petit peu, dans certaines mesures, au croisement de ces trois types d'intérêts qu'on trouve leur œuvre. Lorsque j'essaie, si vous voulez, comme ça, a posteriori, de définir mes intérêts naissants, ce qui peut-être me différenciait de pas mal de mes camarades, de mes collègues, etc., c'est d'abord quand même un goût pour un intérêt essentiel pour l'histoire. Ça, c'est tout à fait certain. Et de manière plus précise, donc, disons, l'histoire de la pensée, l'histoire des idées. D'autre part, malgré tout, encore une fois, l'intérêt pour l'histoire, ça suppose qu'on s'intéresse à certaines choses, à l'intérieur même de l'histoire. Bon, donc, c'est du côté, évidemment, de la pensée politique ou de la réflexion même sur l'histoire, si vous voulez, que je me suis intéressé. Donc, il y a une unité, je crois, quand même, dans mes centres d'intérêt, dans les travaux que j'ai pu faire, dans les éditions d'auteurs que j'ai pu faire, n'est-ce pas ? Bon, évidemment, ce n'est pas exhaustif. Et entre les choses que l'on publie et puis, d'autre part, ce dont on a pu parler lorsqu'on a enseigné de nombreuses années comme moi, bon, forcément, il n'y a pas forcément de coïncidence, n'est-ce pas ? Il y a des auteurs qui m'ont profondément intéressé, marqué, etc., sur lesquels bon, j'ai écrit des articles ou j'ai fait des cours, n'est-ce pas ? Bon, mais encore une fois, si vous voulez, sans donner une insistance particulière. Bon, alors, donc, si vous voulez, à ce moment-là, il est toujours assez difficile, rétrospectivement, de donner une unité à une pensée qui, pour moi, je le répète, n'a jamais été séparé de l'enseignement. Et ça, c'est quelque chose, j'insiste beaucoup, je tiens à le dire, le grand plaisir que j'ai eu à enseigner de nombreuses années, un endroit justement bien précis. Il s'agissait de l'université de Nanterre, et que même dans les moments... enfin bon, c'est passé un peu à l'histoire et à la postérité qui ont été un petit peu chaotiques. Pour moi, j'ai toujours trouvé du plaisir, n'est-ce pas ? À la fois le fait de pouvoir enseigner, de trouver un public d'étudiants qui n'était pas forcément, si vous voulez, le plus nombreux, parce qu'il y a une sorte d'instinct qui se trouve chez les étudiants, qui se porte vers tel ou tel professeur, etc., n'est-ce pas ? Et encore une fois, et ça je tiens à le dire, l'atmosphère intellectuelle de Nanterre n'a jamais été terrorisante. Enfin, vraiment, on a toujours... Les sensibilités les plus diverses ont pu s'exprimer, d'ailleurs, enfin, des maîtres comme Ricoeur, Lévinas, etc., n'est-ce pas, qui enseignaient justement au moment même où j'étais, bon, j'étais tout à fait quand même à l'aise, si vous voulez, là-dedans. Donc, passage, je tiens quand même à rectifier, si vous voulez, certaines idées reçues concernant l'université de Nanterre, hein.
Donc, vous n'avez pas eu le sentiment d'être jugé par vos pairs comme un mouton noir, quelqu'un qui se référait à des vieilles choses oubliées, ô combien dépassées, et que le vent de l'histoire allait emporter à tout jamais ?
Absolument pas, et je dirais même du côté des étudiants, enfin, pas tous encore une fois, mais il y avait une sorte... Dans ces années qui étaient assez cruciales d'un certain point de vue, il y avait une espèce de répartition instinctive, si vous voulez, des étudiants vers les professeurs, bon, qui les attiraient ou pas, etc. Ce qui fait que ça donnait une espèce de liberté très grande. Et ça, c'est une chose que je tiens à dire. Nanterre a été terriblement quand même critiqué. Sa création relativement tardive, le fait que s'est développé peu à peu, a donné une sorte de liberté institutionnelle à l'enseignement, en particulier de l'enseignement de la philosophie, est extrêmement grande, voyez, beaucoup plus que dans les universités qui avaient une vieille tradition. Et ce qui fait qu'il y avait une sorte, si vous voulez, de liberté à la fois d'enseigner et d'apprendre, qui permettait, je dirais, un peu aux sympathies intellectuelles, aussi bien du côté des professeurs que des étudiants, de s'exprimer, n'est-ce pas ? Sans précisément qu'il y ait, si vous voulez, des coercitions administratives ou autres qui existaient ailleurs ou qui, en fait, qui se sont développées.
Vous avez été nommé à Nanterre en 65. Donc, vous avez vécu en plein donc mai 68, au cœur de mai 68, il y a bien eu les étudiants de Nanterre donc, qui ont été, si ce n'est à l'initiative, du moins l'élément catalyseur de toutes les révoltes contre ces vieux profs, ces vieux enseignements, ces vieilles façons de faire. Ça, vous l'avez quand même vécu comme un élément de, peut-être de remise en cause, alors même que d'autres professeurs que vous avez connus, eux se sont laissés aller, ont penché du côté de l'enthousiasme juvénile des révolutionnaires en herbe de mai 68.
Oui, si vous voulez, moi j'ai eu la chance d'être immunisé dans une certaine mesure contre à la fois ces engouements dont vous parlez ou aussi par rapport à des réactions trop violentes, si vous voulez, contre. Mais disons, à la fois peut-être une question de tempérament personnel. Et deuxièmement, surtout de culture philosophique, historique et politique. J'avoue que dans une certaine mesure, sur le plan en tout cas de l'idéologie, je n'ai pas pris très au sérieux la fameuse pensée mai 68. Pourquoi ? C'est parce que justement, mes intérêts, mes lectures, depuis très, très longtemps, bon, on a parlé ici des Italiens, des auteurs français du 18e, mais mes lectures aussi m'avaient amené à lire, à étudier des auteurs enfin, qui relevaient de ce qu'on appelle l'utopie, la pensée utopique à ce moment-là. Donc, et j'ai eu l'impression de me retrouver, comment dirais-je, en entendant les slogans 68, etc., cette fameuse pensée 68, de me retrouver, je ne dis pas à l'aise, mais en tout cas en terrain très bien connu, justement par les lectures que j'avais pu faire de la pensée française, en particulier au XIXe siècle. Autrement dit, pour moi, tout ce que j'entendais n'était absolument pas nouveau. Il suffisait d'avoir lu les penseurs utopistes ou socialistes, etc., du XIXe siècle pour retrouver tout ça ayant déjà été exprimé. Alors peut-être, à cause de ça, parce que je me trouvais en quelque sorte dans un terrain intellectuel trop connu de moi, je n'ai peut-être pas pris très au sérieux ce qui se passait. Alors qu'après tout, quand même, indéniablement, ça a changé pas mal de choses, si vous voulez. Mais je n'ai jamais pris intellectuellement, si vous voulez, très au sérieux ce qu'on appelle la pensée 68, parce que je la connaissais, si vous voulez, par cœur. Et je la connaissais à partir des lectures que j'avais pu faire d'auteurs datant d'un siècle ou et demi avant.
Mais comme vous n'êtes pas un homme qui a la dent dure contre ses collègues, et comme vous n'aimez pas non plus dire du mal d'eux, mais vous avez quand même vu autour de vous, à la fois à Nanterre, mais des philosophes qui auraient pu être, comme vous, immunisés contre tous ces enthousiasmes juvéniles d'une utopie qui devait arriver de manière ou d'une autre, basculer du côté des étudiants, pour le faire vite, du côté de cette remise en cause du vieux féminisme. Alors, comment est-ce que vous avez apprécié, jugé le comportement d'un certain nombre de vos collègues, sans parler des étudiants, mais de vos collègues, qui étaient aussi savants que vous sur tous ces auteurs-là, et donc qui connaissaient tous ces auteurs-là, et donc qui auraient pu être prémunis comme vous contre toutes ces fièvres-là, et qui ne l'ont pas été.
Oui, mais écoutez, il faut bien dire les choses très franchement. Justement, je ne les ai pas pris au sérieux, dans la mesure où ce qu'ils disaient, c'était des choses justement que je connaissais de très longue date. Et encore une fois, c'était peut-être, sur le plan intellectuel, une attitude, la mienne, tout à fait justifiable. Sur le plan proprement politique, c'était peut-être une erreur de ne pas prendre au sérieux même des choses qui ne sont pas sérieuses. Et d'autre part, il faut bien dire, enfin, on ne peut pas entrer dans le détail historique sur cette période, ceux qui étaient peut-être le plus attirés par, disons, l'aspect mai 68, etc., étaient des collègues qui, au fond, n'avaient pas eu une formation sur la pensée politique extrêmement marquée. Et ceux qui avaient cette formation davantage, c'était les marxistes, n'est-ce pas? Et qui, au fond, on le sait très bien, n'étaient pas très à l'aise, justement, dans cette époque. Et que les néophytes enthousiastes étaient souvent des philosophes extrêmement estimables, mais qui, jusque-là, étaient restés assez éloignés de la réflexion sur la politique, etc., sur l'économie ou autre, n'est-ce pas? Donc, c'est là, lorsque je dis que je n'ai pas pris très au sérieux toute cette période, c'est comme ça, si vous voulez, que je justifie ce jugement.
Nous allons observer une deuxième page musicale avant de reprendre avec Alain Ponce. Prenons avec Alain Ponce ce parcours et je voudrais revenir sur un terme et ça nous permettra de mieux explorer, disons, deux de vos références, à savoir Kostas Papoyanou et puis Raymond Aron, mais qui est l'amitié. Alors on a insisté au début, j'ai insisté au début dans votre portrait, vous avez insisté sur l'amitié. Bon, on peut considérer que l'amitié c'est un peu accessoire, mais n'y a-t-il pas dans l'amitié quelque chose de philosophique? Alors, je fais référence en particulier donc, à Aristote, à l'éthique à Nicomaque, et je précise que dans l'éthique à Nicomaque, vous avez lu vous-même sur la tombe de votre ami Kostas Papoyanou ce texte, une partie du texte de cette éthique à Nicomaque sur l'amitié. Que dit Aristote? Aristote considère donc que l'amitié a partie liée avec la vertu, qu'elle est nécessaire, et je le cite, « à deux, allant de pair, on n'est plus capable de penser et d'agir. » Alors je me demande si effectivement l'amitié qui a été la vôtre, le sens de l'amitié qui a été la vôtre, les amis qui ont été les vôtres, les admirations pour les vivants comme pour les morts, avez-vous dit que l'amitié n'a pas été pour vous une manière de vous prémunir, une antidote contre les fièvres, illusions et autres utopies de l'époque?
Oui, effectivement, j'attache beaucoup d'importance, et j'ai attaché toute ma vie beaucoup d'importance justement à cette, je dis pas cette notion, parce que c'est quelque chose qui est vécu, existentiel, si vous voulez, qui s'appelle l'amitié, n'est-ce pas? C'est pas la même chose que l'amour, enfin bon, et qui, pour moi, effectivement, a été merveilleusement exprimé par Aristote, cette notion grecque de philia, et dans une certaine mesure, ce n'est pas peut-être un hasard si, pour moi, l'incarnation la plus forte de l'amitié personnelle Ça a été, c'était mes rapports avec Kostas Papaioannou, dont vous avez parlé, qui était un grec et qui avait justement un sens absolument merveilleux de l'amitié, dans le sens extrêmement fort, si vous voulez, que ce sentiment a chez les Grecs, chez Aristote en particulier. Donc, dans une certaine mesure, je suis heureux à un moment, si vous voulez, où je peux porter sur mon existence en général et sur, d'autre part, mon existence de philosophe, de professeur, que j'aime bien le placer, si vous voulez, cette existence, sous le signe de l'amitié. Une amitié sur le plan, si vous voulez, personnel. Vous avez fait allusion justement à quelques-uns de ses amis. Et puis d'autre part, je répète, une amitié sur le plan, disons, philosophique. On peut être ami avec quelqu'un qui pensait et écrivait il y a 2500 ans, n'est-ce pas ? Ou au contraire, on peut se sentir tout à fait éloigné de quelqu'un aussi qui se situe dans un passé aussi lointain. Et là, il y a une sorte, dans le choix des auteurs sur lesquels on va consacrer quand même, justement, si vous voulez, une bonne partie de son travail, il y a, je crois, pas simplement l'intérêt spéculatif et l'intérêt historique, n'est-ce pas ? Bien entendu, c'est ça. On y a fait allusion tout à l'heure. Pour moi, j'ai fait des cours, je crois, extrêmement développés et sérieux sur Marx, peut-être plus sérieux que ce que les collègues qui se disaient marxistes pouvaient faire, n'est-ce pas ? Bon, je parle d'un côté presque technique, n'est-ce pas ? Bon, sans que forcément, si vous voulez, il y ait une amitié intellectuelle. Tandis que je ne vais pas faire une sorte de revue, si vous voulez, des amis philosophes ou écrivains du passé, n'est-ce pas, bien entendu. Mais je crois que c'est quelque chose, si vous voulez, qui est assez important et que vous m'incitez à le faire. On jette un coup d'œil rétrospectif, non seulement sur une carrière universitaire, mais aussi, enfin, sur une vie de quelqu'un qui a essayé quand même de réfléchir un peu. Bon, on s'aperçoit qu'il y a quand même, si vous voulez, des sympathies, même si, encore une fois, justement, je crois que vous l'avez un petit peu indiqué dans ce que vous disiez, par tempérament, je ne suis pas spécialement polémique et autres, mais ça n'empêche pas tout de même qu'il y a les gens qu'on aime, et il y a ceux qu'on aime moins, et il y a ceux qu'on admire et qu'on admire moins, etc. Ça, c'est évident.
Quand on regarde un peu tous les auteurs que vous avez introduits, que vous avez mis en valeur, que vous avez parfois même promus dans le champ intellectuel français alors qu'ils étaient oubliés ou complètement occultés, je me pose une question qui est la suivante. Est-ce que vous n'êtes pas une espèce un peu oubliée, enfin d'un honnête homme qui regrette ou qui a regretté pendant toute sa vie, non pas à titre personnel parce que vous l'avez pratiqué, mais peut-être dans les mœurs, qui regrettent les temps anciens où l'art de la conversation, où la politesse, où les égards, où le commerce des idées, voilà, était une chose pratiquée dans à la fois la modestie, la prudence et, disons, l'accueil des autres pensées. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous, non pas à titre personnel, mais à titre presque philosophique, une forme de nostalgie du temps ancien, de l'ancien régime de l'humanité, tel que celui-ci s'est perdu pour partie, disons, à partir du moment où les fièvres du progrès et des illusions de la philosophie politique qui allaient se réaliser dans le monde sont intervenues et se sont imposées dans le champ philosophique.
Oui, vous avez tout à fait raison. Là, on se place à un niveau, d'ailleurs, qui n'est plus celui des idées proprement dites, mais niveau qu'on peut appeler moral ou psychologique, n'est-ce pas ? Bon, chacun a une espèce de personnalité, façon de réagir, non seulement devant les faits de l'existence, mais aussi devant les faits de la pensée. Bon, ça c'est évident. On a des sympathies ou des antipathies intellectuelles, enfin ça c'est évident. Et effectivement, moi j'ai toujours été attiré par les époques et par les auteurs où précisément existait entre les individus, entre ceux qui écrivaient, ceux qui réfléchissaient, qu'il existait une sorte de, si vous voulez, de convivialité, enfin, en quelque sorte, à laquelle, au fond, je participais rétrospectivement, en les lisant, en essayant de les faire connaître, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'il y a des périodes dans l'histoire en général et dans l'histoire de la pensée, dans lesquelles, période du passé, dans lesquels on se sent plus à l'aise, d'un certain côté, dans laquelle on aurait aimé vivre. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, il y a toujours une part d'idéalisation. Mais enfin, il est certain que lire un philosophe, ça veut dire pas simplement analyser la manière la plus précise possible, sa pensée, son raisonnement, etc. Mais tout de même, c'est d'avoir une sympathie, un peu pour, si vous voulez, pour ce qu'il dit. Et cela sans aucun préjugé. Je veux dire que ça dépasserait un peu le niveau d'une discussion purement philosophique. Ça pourrait faire, évidemment, entrer dans un domaine de discussion des idées religieuses, etc. Bon, ce n'est pas forcément le lieu, mais il est certain qu'il y a des auteurs, si vous voulez, pour lesquels j'ai une sympathie, des auteurs du passé, une sympathie particulière, sans que, en même temps, si vous voulez, je partage, évidemment, je partage leur position. Par exemple, j'avoue que pour moi, Lucrèce, c'est vraiment un plaisir absolument permanent, si vous voulez, de le lire, même si sur le plan proprement métaphysique, etc., je ne partage pas. Bon, j'ai un tempérament, je crois, d'historien, plus qu'un tempérament de théoricien. Bon, si vous voulez, ça, il faut l'admettre et il faut exploiter les choses pour lesquelles on est fait, en effet. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, j'ai une sorte d'éclectisme dans mes goûts philosophiques, dont on peut penser que peut-être, évidemment, c'est une manière de ne pas s'engager d'une manière très, très directe, mais ça fait partie du tempérament de chacun. C'est une chose que, je crois que vous l'avez compris, précisément, je n'aime pas les gens dogmatiques, ça c'est sûr, même si ça leur donne une grande force, ça c'est certain, aussi bien dans le domaine de l'action que dans le domaine de la pensée, ce qui, en même temps, il ne s'agit pas que cet éclectisme pousse, si vous voulez, à mettre tout sur le même niveau, n'est-ce pas, aussi bien dans le domaine de la pensée que dans le domaine de l'action ou dans le domaine de la politique ou autre. Ça a été, si vous voulez, un peu le fil directeur de mon existence philosophique.
Qu'est-ce que vous diriez quant à la tâche du philosophe et du philosophe dans la cité? Parce que quand on regarde les auteurs que vous avez examinés, lus, travaillés, on voit qu'ils mettent toujours en avant aussi un art de vivre, une sagesse, une manière d'être. Voyez, c'est pas simplement au niveau des idées, c'est aussi au niveau du comportement social en société. Le courtisan, c'est pas simplement celui qui se fait voir du prince, c'est aussi une manière de se comporter en société. Alors, quelle est, selon vous, la tâche du philosophe ?
Eh bien, précisément, si vous voulez, là encore, bon, lorsqu'on est plutôt historien de la philosophie que théoricien, enfin, bon, prétendant avoir une théorie, on s'aperçoit que, tout de même, bon, la tâche du philosophe a toujours été, dans une certaine mesure, tout de même, d'essayer de donner un sens à l'existence de la communauté humaine, n'est-ce pas ? Bon, et c'est là, si vous voulez, que précisément, je me suis toujours senti à l'aise, par exemple, avec, on a parlé d'Aristote tout à l'heure, et précisément, l'homme animal politique, ça veut dire qu'il est fait, vous voyez, pour vivre justement avec les autres.
Ça veut dire qu'il n'est ni Dieu ni bête.
Exactement.
Voilà. Et donc, il y a une nécessité.
Voilà. Et que d'autre part, ce qui est quand même intéressant, c'est l'étude des rapports des hommes entre eux, n'est-ce pas ? Bon, tandis que vous avez des grands penseurs ou des grands écrivains, n'est-ce pas, qui... On ne peut pas dire que c'est une pensée purement individuelle ou individualiste, etc. C'est peut-être que, dans une certaine mesure, les plus grands. Mais à ce moment-là, les préoccupations d'ordre, je dis, social, politique, etc., passent un peu au second plan. Hein. Et, autrement dit, il y a une espèce d'élément mystique, même s'il ne s'agit pas forcément d'une mystique religieuse. Alors là, par tempérament, justement, je suis assez éloigné, si vous voulez, de ce sentiment. Et que là aussi, instinctivement, j'ai été porté par une espèce de sympathie irréfléchie au départ à m'intéresser à des auteurs qui correspondaient un peu, en quelque sorte, si vous voulez, à mes sympathies, n'est-ce pas ? Bon.
Ce qui est presque paradoxal chez vous, c'est que, à la fois dans votre enseignement, et j'en suis témoin, et à la fois dans votre œuvre, vous avez toujours fait preuve d'une modestie au sens fort du terme, et vous avez étudié des auteurs sans jamais rien dire de mal sur l'époque telle qu'on la connaissait. Et donc, d'un certain point de vue, on pourrait croire que vous êtes pour partie désengagé des combats de l'époque. Paradoxe, disais-je, parce qu'en même temps, Donc, nous parlions donc de Costas Papoyanou, nous parlions de Raymond Aron, on parle d'Alain Besançon. Tout cela ont mené des combats rudes, parfois vigoureux, souvent, contre le marxisme imaginaire, le marxisme réel, la folie qui s'est emparée des individus. Donc, comment est-ce que vous réconciliez, d'une certaine façon, à la fois ce tempérament qui vous pousse à la prudence et à ne pas dire du mal de l'époque qui est la vôtre, et en même temps, des amitiés fortes pour des gens qui, eux, se sont battus sur toutes les brèches contre, disons pour faire vite, le marxisme et ou le totalitarisme tel que celui-ci ou tel que ceux-ci se sont emparés du siècle.
Il y a peut-être une question de tempérament. Ce sont des choses qui existent. Ça, je suis d'un tempérament modéré, bon, je n'ai pas honte de le dire, mais en même temps, si vous voulez, je crois que cette modération, à la fois bon, dans l'action ou dans la pensée, n'entraîne absolument pas, si vous voulez, une absence de jugement sur le plan intellectuel, n'est-ce pas ? Bon, d'autre part, il y a ce qu'on appelle l'engagement politique ou autre, pour des raisons, pas de tempérament, quoique ayant vécu à une époque ou dans des milieux où les questions d'engagement étaient peut-être même encore plus importantes et pressantes que maintenant, n'est-ce pas ? Vous voyez les années dans lesquelles j'ai fait mes études, en particulier alors l'engagement du côté du Parti communiste, etc., c'était pour les cagneux normaliens, etc., ou étudiants en général de cette époque, c'était le problème, dans une certaine mesure. Or, moi, à la fois, mon tempérament, peut-être aussi d'ailleurs, enfin, c'est, si vous voulez, quand même, des influences familiales et autres. Bah, bon, c'est-à-dire que je suis quand même d'un milieu, on peut dire, de gauche. Mais en même temps, peut-être à cause de ça, je ne pouvais pas tomber dans les illusions dans lesquelles beaucoup de mes camarades, si vous voulez, tombaient, n'est-ce pas, dans le début des années 50, par exemple. Donc ça, c'est une question, je dirais, de tempérament, mais pour moi, ça n'a jamais... Il y avait une espèce de résistance à tomber dans les excès, voyez. Ce qui fait que quand même, d'un certain côté, j'en tire une certaine satisfaction. Ça, c'est une question de tempérament, si vous voulez, à la fois sur le plan intellectuel et puis même beaucoup plus général. Parmi les noms que vous avez cités, qui sont ceux de, justement, de gens que j'appellerais un beau mot, pour moi, c'est le mot camarade, même s'il a été, si vous voulez, un petit peu d'avant tiré dans un sens pas forcément agréable. Mais pour moi, la notion, si vous voulez, par exemple, de camaraderie intellectuelle est quelque chose qui a un sens. Ça ne va pas jusqu'à l'amitié. Bon, alors, parmi les gens que vous avez cités, ce sont plus que des camarades, ce sont des amis avec des tempéraments assez différents entre eux. Bon, ça, je veux dire que Raymond Aron n'est jamais passé par le Parti communiste, si je ne me trompe. Il n'empêche qu'il était extrêmement proche ensuite de philosophes ou d'historiens qui, eux, étaient passés par là, etc. Bon, moi, j'avoue que, j'ai une espèce de réserve instinctive. Je ne suis jamais tombé dans ce genre d'engagement, mais je crois que sur le plan intellectuel, si je relis ce que j'ai pu faire, qui évidemment, vous direz que je me suis un peu, si vous voulez, réfugié dans l'histoire en parlant, en éditant ou en parlant essentiellement de philosophes du passé. Mais après tout, il y a aussi une certaine façon de lire ces gens-là qui suppose une espèce d'honnêteté intellectuelle. Si vous voyez, il ne s'agit pas de les tirer à soi, etc., comme ça peut être fait. Ce qui fait que, effectivement, c'est un des plaisirs, puisque vous avez prononcé à plusieurs reprises quelques noms, des amitiés intellectuelles qui supposent une assez grande, peut-être, de variété de situations, de prise de position politique ou autre, mais malgré tout, qui ont en commun une espèce de jugement, de ne pas s'emballer, d'essayer de réfléchir et d'avoir sur la politique présente, etc., n'est-ce pas ? Bon, des jugements qui soient mesurés. C'est quelque chose que je revendique, en quelque sorte, ce sens de la mesure, et je crois que quand même, précisément, on peut trouver quand même de ce point de vue-là, chez les philosophes du passé, je pense, puisqu'on a cité plusieurs reprise son nom, Aristote, si vous voulez, même si ça n'a pas les grandes envolées poétiques, par exemple, d'un Platon. Mais enfin, on ne va pas se lancer dans ce genre de comparaison.
Nous allons faire une petite page musicale et nous reprenons juste après. Donc nous reprenons notre dernière partie et je voudrais qu'on aborde, parce que vous êtes quand même le spécialiste français de Vico, Vico et la philosophie italienne. Alors la question que je me pose, la première, et puis après on parlera de Vico, mais pourquoi avez-vous été chercher ailleurs, dans un autre lieu, dans un autre pays, à la fois des philosophes ou des auteurs ou des penseurs qui vous ont intéressé, d'une part, et deuxièmement, en plus, Vico, qui est, disons, le pire ennemi de Descartes et des cartésiens, donc de notre philosophe national. Donc il y a un effet de trahison de la bonne philosophie française en allant chercher le pire ennemi de notre philosophe national. Pourquoi avoir été chercher là-bas ce que vous auriez sans doute pu trouver dans le XVIIIe siècle ou XVIIe siècle français pour alimenter, disons, les intérêts qui sont les vôtres et la prudence dont vous parliez?
Bon, ben, évidemment, ça, c'est là qu'on péripétie d'une existence et d'une existence de philosophe. Il y a une part de hasard et une part de nécessité. En ce qui concerne Vico, mais c'est assez amusant de ce point de vue-là, c'est tout à fait par hasard que je l'ai découvert, dans la mesure où je n'en avais jamais entendu parler au cours de mes études, qui quand même m'avaient mené jusqu'à l'agrégation. Il était quasiment ignoré, si vous voulez, en France. Et alors, le hasard, c'est que précisément après mon agrégation et avant de prendre un poste, j'avais envie de souffler un peu, comme on le faisait assez souvent, et à l'école normale, justement, j'ai vu une affiche qui proposait une bourse d'études à l'Institut Benedetto Croce. Naples, malgré tout, c'est assez tentant. Et il s'agissait évidemment quand même, de, pour avoir une bourse d'un an, de présenter un projet. C'est là que j'ai parlé au professeur Bédarida, qui à ce moment-là, bon, si vous voulez, chapeautait un peu les relations universitaires avec l'Italie. Il m'a dit, oui, vous avez envie d'aller à Naples. Bon, écoutez, il y a deux Napolitains intéressants, il y a l'abbé Galliani, et puis il y a Vico. Alors, quand même, Vico, j'avais vaguement entendu parler. La philosophie de l'histoire m'intéressait déjà, si vous voulez. J'ai dit, va pour Vico, justement. Et c'est là que je me suis donc engagé dans cette direction. Vous voyez, et j'ai prononcé son nom avant d'en avoir lu une ligne, si vous voulez. Et j'avoue que ça a été pour moi, justement, ensuite, au cours de cette année passée à Naples, une découverte qui a déterminé énormément de choses, si vous voulez, pour la suite de chez moi, n'est-ce pas ? Et je ne le regrette pas, véritablement. Parce qu'à partir de la réflexion sur cet auteur, j'ai découvert énormément de choses que mes études, quand même assez poussées, si vous voulez, en France, justement, ne m'avaient pas du tout fait connaître. Parce que aussi, ça a été une de mes expériences. Il ne s'agit pas du tout de dire du mal de l'université française ou de la philosophie française, du moins à cette époque, etc. Mais c'était quand même, si vous voulez, une optique assez limitée. Ça, c'est certain. Et l'exemple de Vico, quand même, en lui-même intéressant, parce que c'est un auteur qui, dès cette période, et encore plus maintenant, était très connu et étudié. Bon, je ne parle pas de l'Italie, mais je vous dis, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, alors qu'en France, il n'y avait, pour ainsi dire, rien.
Alors, je renvoie nos auditeurs à une communication donc, qui est sur le site de Canal Académie. Donc une communication que vous avez prononcée en séance publique de l'Académie des sciences morales et politiques le 31 mars 2003 sur Vico. Alors est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs pourquoi faut-il lire Vico ? Quel est l'intérêt de lire Vico ? Lui qui insiste beaucoup sur le monde civil, contrairement à la connaissance du monde naturel qui semble être celui de la philosophie, et qui insiste beaucoup sur... disons, l'imagination, l'intuition, etc., contre Descartes et contre donc le primat de la raison.
Oui, évidemment, c'est très difficile. En quelques mots, pourquoi Vico est intéressant, mais déjà, dans les quelques mots que vous venez de dire, vous avez un petit peu ouvert la perspective. Autrement dit, il s'agit, si vous voulez, d'une pensée qui n'est pas du tout, comme on le dit quelquefois, antirationaliste, choses comme ça, mais qui, évidemment, c'est peut-être la première grande pensée quand même qui intègre l'histoire, si vous voulez, dans la réflexion philosophique. Et qui, précisément, ne privilégie pas uniquement les fonctions rationnelles, et c'est pourquoi, dans une certaine mesure, on a raison d'opposer Descartes et Vico, bien que Vico à la fois ait une grande admiration pour Descartes, etc., mais en même temps, ce qu'il propose, c'est une réaction quand même contre l'influence cartésienne. D'autre part, Vico prend au sérieux, si vous voulez, l'histoire, mais une histoire qui est essentiellement celle des institutions, n'est-ce pas ? Ce n'est pas l'histoire des batailles. Et d'où, d'ailleurs, l'importance, si vous voulez, le fil directeur, et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, l'importance de la réflexion sur le droit chez lui, n'est-ce pas ? Et parce que, précisément, pour lui, si vous voulez, l'histoire du droit, en quelque sorte, sert de fil conducteur à une réflexion entre, d'un côté, le devenir historique à travers les institutions qui changent, qui se transforment, etc. D'autre part, l'incarnation dans ce devenir apparemment mouvementé, etc. Justement, la découverte, si vous voulez, d'un sens qui ne soit pas mystique en quelque sorte, mais qui s'incarne, si vous voulez, dans le devenir même des institutions. Et c'est là, précisément, encore une fois, une chose qui n'a pas été assez vue, même par les Vicains, puisque c'est ainsi qu'on appelle ceux qui s'intéressent à Vico, donc l'importance, si vous voulez, donc, du droit. Et alors, d'autre part, vous y avez fait allusion, ce qui est intéressant, justement, chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui avait un sens, si vous voulez, du temps historique extrêmement fort et sans doute... Encore une fois, d'autres l'avaient eu avant lui, mais ne l'avaient pas exprimé en termes philosophiques, n'est-ce pas ? À savoir que l'histoire des institutions humaines, n'est-ce pas, ne se fait pas au hasard, mais qu'il y a un espèce de rythme de développement qui part des formes les plus élémentaires, si vous voulez, de la sociabilité, jusque, au contraire, à la formation de l'État rationnel et autres. Alors d'où une philosophie de l'histoire, bon, ça c'est le terme un peu classique, si vous voulez, mais à mon avis, Vico c'est beaucoup plus qu'une philosophie de l'histoire, c'est vraiment une philosophie tout court, et alors qui mobilise toutes les facultés de l'homme, d'où l'importance donnée à l'imagination, en particulier de la poésie, peut-être parmi les plus belles pages de Vico, la façon dont... par une espèce d'effort assez étonnant, si vous voulez, il s'est mis dans la peau, en quelque sorte, si vous voulez, de ceux qu'il appelle les fondateurs des nations, et cela en pleine époque rationaliste, justement, où dans le fond, on ne prenait pas au sérieux l'histoire, tandis que c'est quelqu'un qui l'a prise justement, extrêmement au sérieux pour en faire, avec la philosophie, une sorte de synthèse. Bien sûr, c'est très difficile, en quelques mots, d'exprimer toute la richesse de cette pensée, mais pour moi, la pensée de Vico a un intérêt évidemment rétrospectif, historique, extrêmement important, mais d'autre part, c'est une pensée qui nous aide, si vous voulez, à réfléchir. On a une vision, si vous voulez, de l'histoire de la pensée, de la philosophie qui est un peu trop simpliste et linéaire. Et il est certain qu'il a ouvert des voies qui n'ont pas été tellement suivies immédiatement, mais ce n'est pas un hasard si quand même, dans beaucoup de pays et en France un peu, je l'espère, et peut-être un peu grâce à ce que j'ai pu faire, on découvre la fécondité d'une pensée qui nous fait échapper à un rationalisme non historique, n'est-ce pas, qui malheureusement caractérise trop la philosophie française.
Alain Ponce, merci bien. Je renvoie donc nos auditeurs à la fois à la communication que vous avez faite sur Vico, à la fois aux œuvres que vous avez faites et que vous avez traduites de Vico. L'idée de cet entretien, c'était de vous présenter, vous, d'essayer de voir un peu hein, quelle était la cohérence de ce que vous avez fait et de ce que vous avez introduit en France. Et laissez-moi vous remercier pour tout ce que vous nous avez donné et toute la cohérence que vous avez pu nous transmettre quant à votre œuvre et quant à votre vie telle qu'elle s'est produite jusqu'à présent. Voilà, Alain Ponce, merci bien.
Je vous remercie.